Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann. Un miracle au milieu d'un drame. Les deux enfants défenestrés par leur père ce 6 juillet à Paris vont mieux. Leur pronostic vital n'est plus engagé. Le père est décédé après avoir sauté par la fenêtre. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur les deux enfants et violence sur leur mère. Comment expliquer le geste fou de ce père de 49 ans? Trois jours après le drame, personne ne comprend. Ce samedi 6 juillet vers 20h30, l'homme empoigne ses deux garçons de 2 et 5 ans et les jette littéralement par la fenêtre de leur appartement. Leur logement est situé au 5e étage d'un immeuble du 14e arrondissement de Paris. Les deux garçons sont âgés de 2 et 5 ans. Dans la foulée, l'homme saute lui aussi par la fenêtre et son corps chute lourdement sur le bitume. Il décède sur place des suites de ses blessures. Cette voisine a entendu un bruit sourd et regardé alors à l'extérieur.
J'ai entendu un grand boom. Après, des jeunes enfants qui criaient. Je me suis demandé ce qui se passait. Il y avait deux dames et chacune était à côté des enfants pour qu'ils restent conscients. Et voilà, et après les pompiers, la police est venue.
Plusieurs autres voisins assistent à la scène impuissants. D'autres accourent vers les enfants pour tenter d'aider.
C'est incroyable, j'arrive pas à y croire, vraiment. Et j'arrive pas à comprendre, franchement, ça me choque de ouf. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé parce que, à l'extérieur, ils montraient pas qu'ils avaient un signe, ça allait pas entre eux. Moi, je suis choquée en fait, je suis un peu sous choc.
Les secours arrivent rapidement sur place et prennent en charge les deux enfants tombés sur la pelouse au pied de l'immeuble. Leur mère est à côté d'eux, complètement sous le choc. À ce moment-là, le pronostic vital des enfants est engagé. Ils sont transportés à l'hôpital Necker et admis en soins intensifs. La mère est aussi prise en charge par les secours. Dans le journal Le Parisien, une riveraine raconte être sortie sur son balcon. Elle aperçoit alors trois corps gisant en contrebas. Ils avaient leur tête écrasée par terre. Le père, sur le bitume. Les enfants, sur la pelouse. Au début, je pensais que les enfants jouaient, mais ils ne bougeaient plus. Cette voisine interrogée peu après les faits par BFM TV ne comprend pas comment le père a pu commettre un tel geste.
Quand on les voyait à l'extérieur, franchement, ils avaient l'air d'être heureux. C'était des personnes gentilles, surtout lui. Toujours blagueur, taquineur. Il était toujours avec ses enfants. C'était fusionnel entre eux. Il leur achetait toujours plein de bonbons. Enfin, il brillait, ce monsieur. Il avait une lumière sur lui. Il était drôle, il était gentil. Non, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, vraiment.
Les mêmes images traumatiques restent dans toutes les têtes ce samedi soir. Georges, un riverain, raconte ceci au journal Le Parisien. Il y a eu une rixe familiale. Il a jeté ses deux enfants, qui sont tombés sur le gazon. Lui est tombé la tête la première sur le bitume. Il aurait tenté de jeter sa femme par la fenêtre aussi. C'est ma cousine qui a tout vu. Elle est très choquée. Une autre voisine de l'immeuble raconte à Lucille Pascanet pour RMC qu'elle croisait toutes les semaines le père de famille dans l'ascenseur.
C'est un monsieur qui était vraiment dans le quartier avec ses deux enfants, souvent au parc derrière ou qui passait devant. On avait à peu près les mêmes horaires, donc au moins une fois dans la semaine, je le croisais. C'était vraiment monsieur tout le monde, monsieur qui était avec ses deux garçons, on se croisait dans l'ascenseur, on échangeait des banalités. De l'extérieur, on n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille.
Deux sœurs qui habitent juste au-dessus de la famille en question racontent les mêmes souvenirs, la même routine.
Oui, on était ses voisins, on le croisait dans l'ascenseur, au parc, vu que son enfant...
À la sortie de l'école.
Ouais, il était dans la même école que notre nièce, dans la même classe.
Mais ces deux femmes racontent également avoir déjà été témoins d'échanges tendus.
Vous doutiez qu'il y avait un peu de l'eau dans le gaz.
Et tout, on entendait un peu des bruits, mais bon, c'est un peu comme dans tous les couples, pardon, on se disait pas qu'ils se cachaient vraiment quelque chose dans leur couple, quoi.
Des fois, quand je montais dans l'ascenseur avec les deux parents, du coup, ils se parlaient pas.
Oui, la dame, elle était un peu en retrait, lui aussi, il était un peu énervé et tout.
Il y avait toujours une légère tension,
comprenait pas trop. On se disait pas que est-ce que c'était vraiment réellement important, parce qu'on a tous des problèmes, donc bon, on va pas aller s'immiscer dans la vie des gens, quoi.
Une des voisines raconte que le soir du drame, elle reçoit une vidéo où l'on voit l'homme sauter par la fenêtre. Quelqu'un a filmé cette scène terrible. Elle réalise alors que c'est son voisin qui a commis ce geste.
Moi, j'ai toujours trop le choc perso. Enfin, à chaque fois que je descends en bas, j'ai toujours des images de la vidéo qu'on a tous reçues.
J'ai un peu du mal à dormir, quoi. Surtout qu'on se dit qu'il y a un truc qui s'est passé comme ça juste en bas de chez nous. Il y a beaucoup de gens depuis avant-hier, il y a beaucoup de gens qui viennent en bas. Du coup, nous, quand on descend en bas, on voit encore les gens. Du coup, ça nous rappelle encore ce qui s'est passé. J'essaye d'oublier ça au maximum, mais je pense qu'on ne va pas l'oublier au plus vite, quoi.
Sur la porte d'entrée de l'immeuble où s'est déroulé l'inconcevable, une feuille a été scotchée par l'entreprise qui gère ce parc immobilier. Et voici ce qui est écrit. Un événement dramatique a eu lieu le samedi 6 juillet dans votre quartier. Si vous en avez été témoin et ressentez le besoin d'un accompagnement psychologique, vous pouvez contacter plusieurs services de référence à Paris. Deux numéros de téléphone sont inscrits. Laurine, l'une des voisines, ne parvient toujours pas à comprendre comment ce père a pu commettre un tel geste.
Et on ne peut jamais imaginer ça. Enfin, c'est inimaginable, c'est atroce, ça ne devrait jamais se passer. Enfin, des enfants qui ne demandent rien. Enfin, que ce monsieur fasse des choix, ce sont les siens, mais qui condamne ses enfants, c'est impardonnable. Moi, personnellement, je trouve ça impardonnable.
Aujourd'hui, les deux petits garçons de 2 et 5 ans sont heureusement tirés d'affaire. Leur pronostic vital n'est plus engagé. C'est un miracle. Mais les enfants nés en 2019 et 2021 restent hospitalisés. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans et concernant le père, pour recherche des causes de la mort. Les investigations ont été confiées à la brigade de la protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Je vous rappelle deux numéros de téléphone à composer en cas de danger. Le 119 si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d'une situation de maltraitance d'un enfant. Et le 3919, violence femme info. Il s'agit du numéro national de référence pour l'écoute et l'orientation des femmes victimes de violences conjugales. Et pour revenir sur ce drame, je suis avec Johanna Rosenblum. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste en psychotraumatologie, consultante BFM TV. Avant de revenir sur les faits, je le disais, le pronostic vital des enfants n'est plus engagé, mais on imagine qu'ils vont avoir un suivi psychologique précis. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre avec ce qu'ils ont vécu ?
Toute la difficulté de la prise en charge de ces enfants va être dans la verbalisation du traumatisme qu'ils ont vécu. C'est des enfants de 2 et 5 ans, donc celui de 5 ans parle, celui de 2 ans est ce qu'on appelle préverbal, donc recueillir le discours, recueillir le récit de l'expérience traumatique va être beaucoup plus compliqué. On va vraiment être dans l'éprouvé à cet âge-là. On sait que dans la prise en charge du trauma, il faut faire parler les patients extrêmement rapidement, les mettre en action, les faire verbaliser autour de leurs émotions, de leurs souvenirs. Là, ça sera plus difficile. Donc, dans un premier temps, ce qui sera fait par les pédopsychiatres, c'est être extrêmement attentif à leur psychodéveloppement. La motricité, le langage, le sommeil, l'alimentation, voir si ces enfants parviennent, malgré le traumatisme vécu, à se développer de façon classique. Et si on voit que ces enfants rencontrent des difficultés, des retards, là, il faudra porter une attention particulière et voir si le souvenir du traumatisme et peut-être même les retentissements somatiques, c'est-à-dire physiques de l'accident, n'auront pas eu des conséquences sur leur santé psychique et physique.
Cette scène surréaliste, sidérante, perpétrée par cet homme qui jette littéralement ses enfants par la fenêtre, puis se suicide, comment est-ce qu'on explique un tel geste et est-ce qu'on peut l'expliquer finalement.
Alors, vous savez, depuis le 1er janvier 2024, ce sont 8 enfants qui ont été tués par leur père ou un beau-père, dans un contexte de violence conjugale qui est souvent nié ou dénié, j'ai envie de dire, par l'entourage, la société, le voisinage. Donc, ça représente quand même un tiers des infanticides. En France, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. père ou mère. Et pourtant, aujourd'hui encore, la justice estime qu'un mauvais conjoint n'est pas forcément un mauvais parent. Donc on laisse des enfants sous la responsabilité de parents, parfois condamnés pour violence conjugale dans la justice, mais on laisse ces enfants sous la responsabilité de ses parents, considérant qu'ils vont pouvoir s'occuper de ces enfants à l'endroit même des violences qu'ils perpètrent déjà dans leur couple. Et je crois que c'est ce que l'on sait de cette famille, ou tout du moins de ce couple, c'est qu'il y avait des violences conjugales qu'évidemment les voisins n'entendaient pas, que l'entourage ne percevait pas, mais il y avait bien dans cette famille des violences conjugales.
C'est ça, les témoins, ils disent, bon, bah, nous on croisait le père dans l'ascenseur, il était toujours souriant, il s'occupait de ses enfants, et puis les voisins disent, bon, bah, des fois on sentait que c'était tendu, mais on n'intervient pas dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on peut finalement se rendre compte qu'il y a des violences intrafamiliales ?
C'est très bien d'en parler, vous avez raison de mettre la lumière dessus, parce que ça, c'est un classique qui attire souvent, nous, notre attention en tant que personnel de santé. C'est-à-dire qu'au plus on entend des voisins qui nous disent « il était très souriant, toujours serviable, on n'entendait rien de spécial », au plus nous, on a une petite alerte qui s'allume et on se dit « voilà comment dans un contexte de violence, l'entourage pouvait ne pas entendre ». Et en fait, il ne s'agit pas de ne pas entendre. Les gens savent, tout le monde sait, dans le cas des violences faites aux enfants et violences faites aux femmes en général, tout le monde sait, l'entourage et la société, mais c'est trop difficile, il y a encore beaucoup de déni, il y a une omerta immense autour de ces violences faites sur les femmes et sur les enfants, et on préfère ne pas voir plutôt que d'alerter.
On préfère ne pas voir et on ne sait jamais où mettre le curseur. Il y a une voisine qui dit « bon, ben, chacun a ses problèmes ». Où est-ce qu'on met le curseur ? Quand est-ce qu'on agit ? Quand est-ce qu'on appelle le numéro, le 3919 ou le 119 ?
Quand il y a dans la boucle des enfants qui sont potentiellement en danger, il y a zéro curseur à avoir. Il faut alerter. Vous citiez le 3919, c'est un très bon exemple parce que c'est un numéro qui est anonyme, qui ne figure pas sur les relevés téléphoniques. On peut appeler uniquement pour prendre des informations ou donner des informations, et les personnes à l'autre bout du téléphone, qui sont des spécialistes, recueillent l'information et ensuite se chargent eux-mêmes de faire un signalement au centre de recueillement des informations préoccupantes ou directement au parquet. Donc il n'y a vraiment aucun risque pour les personnes qui appellent, puisque l'anonymat est préservé. Le bénéfice, c'est de pouvoir alerter dans le cas de violence, ou au moins attirer l'attention dans le cas de suspicion de violence. Et moi, je pense que quand il s'agit d'enfants, il y a zéro de question à se poser.
Il y a un terme qui vient d'Espagne, et j'avoue, je viens d'en prendre connaissance, ça s'appelle les violences vicariantes, ou quand le conjoint utilise les enfants comme un moyen de torture contre sa femme. C'est un terme qu'en France, on n'utilise pas ou on utilise peu, et là on imagine dans ce cas précis que l'homme jette ses enfants par la fenêtre puis se suicide, là, c'est uniquement pour faire souffrir son épouse.
Exactement, alors c'est vrai que c'est cette notion de violence vicariante, comme vous disiez, elle a été conceptualisée en Espagne. Elle est utilisée aussi aux États-Unis et elle est un petit peu utilisée en France depuis quelques années, mais surtout pour les primo-intervenants, c'est-à-dire les SAMU, pompiers, police qui arrivent sur des scènes à caractère traumatique, ou des professionnels de santé comme des psychiatres et psychologues qui sont exposés à la violence du récit de leurs patients. Et en fait, ce concept de violence vicariante, il désigne donc les violences qui sont faites aux femmes, dans le cas du fait dont on parle aujourd'hui, donc des violences qui sont faites aux femmes, en s'en prenant à leurs enfants. Donc l'enfant, il est finalement instrumentalisé, il est utilisé comme un moyen de torture contre sa femme, ce que vous disiez. Donc en fait, les enfants sont des victimes directes de ces violences conjugales, mais la violence, en réalité, elle est là pour punir la femme. Et donc on revient à ces sujets de couples dysfonctionnels, toxiques, d'emprise, où l'homme estime posséder sa conjointe. Le climat est souvent extrêmement violent, la femme est souvent extrêmement soumise, sous emprise, coincée dans une relation toxique dont elle ne parvient pas à se libérer. Et en général, les violences flambent lorsque la conjointe ou le conjoint essaye de partir. Donc il y a souvent une flambée des violences au moment des grossesses, et la seconde flambée des violences, c'est quand la femme veut reprendre sa liberté. Et là, l'homme, pensant posséder sa conjointe, la conjointe pense être aimée, en réalité elle n'est que possédée psychologiquement par son conjoint, décide de la faire souffrir. Rien ne doit subsister après cette rupture, donc il se sert des enfants en général pour commettre l'irréparable et faire souffrir au plus, torturer au plus celle qu'il est censé aimer, mais dont on comprend bien maintenant qu'il ne fait que posséder.
Et on parlait tout à l'heure du suivi psychologique des enfants. Celui de la mère va être, j'imagine, tout aussi important.
Évidemment, elle doit être extrêmement traumatisée, dans un état de sidération. Il y a plusieurs étapes qu'il faut respecter dans le cas de la prise en charge des événements à caractère traumatique. Et c'est vrai que dans les premiers temps, il y a souvent une phase de sidération qui ne permet souvent pas de parler. Ce sont des personnes qui sont quasiment dans un état qu'on décrit de catatonique, c'est-à-dire on ne parle plus, on ne bouge plus, impossible de s'alimenter, parfois de manger. Les patientes parfois ne clignent même plus des yeux. C'est vraiment un état de sidération glaçant où la personne est congelée dans son trauma. Et là, tout l'enjeu, évidemment, ça sera de la faire sortir pour commencer la prise en charge qui consiste à verbaliser autour du récit. Évidemment, on ne se relève pas d'un événement aussi douloureux, voir ses enfants instrumentalisés, souffrir, passer aussi près de la mort, c'est quelque chose qui sera extrêmement difficile à vivre. Je pense au sentiment de culpabilité également. Donc ça sera une famille qu'il faudra évidemment accompagner de très très près durant les prochaines années.
Merci beaucoup Johanna Rosenblum.
Merci.
Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste en psychotraumatologie. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Lucille Pascanet pour les témoignages recueillis et merci à Marie Aimé pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. À demain.